Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin. Nous voici tout de suite les titres. Dans l'affaire des Tchèques accusés d'espionnage en Zambie, le président Klaus a écrit à son homologue zambien pour lui faire part de sa conviction qu'ils étaient innocents. Manifestation syndicale contre la corruption ce vendredi à Prague avec une faible mobilisation. Et puis en tennis, Tomáš Berdych joue pour une place en demi-finale du Masters de Londres. Trois ressortissants tchèques sont toujours retenus en Zambie, où ils sont accusés d'espionnage. Le président tchèque Václav Klaus vient d'écrire une lettre à son homologue zambien Michael Sata pour lui faire part de sa conviction que ces trois hommes n'avaient pas l'intention d'enfreindre la loi et que ce n'est que par hasard qu'ils ont pris des photos à des endroits situés près de bases militaires ou de bâtiments du gouvernement. Il a précisé qu'ils avaient juste voulu prendre des clichés d'un avion fabriqué dans leur pays. Le chef de l'État a indiqué qu'il suivit de près le sort de Jiří Cetl, Jan Soufal et Michael Weber, tous les trois accusés donc d'espionnage par les autorités zambiennes. Plusieurs syndicats avaient appelé à manifester vendredi midi à Prague contre la corruption au sein de l'administration publique. La manifestation était organisée par l'Association des syndicats indépendants, les syndicats de cheminots et de médecins. Elle n'a rassemblé qu'environ 500 personnes, selon la police et également selon les syndicats eux-mêmes, qui tablaient sur plusieurs milliers de participants. Une faible mobilisation qui s'expliquerait, selon les responsables syndicaux, entre autres par la peur des gens. Les gens ont encore plus peur qu'avant 1989, c'est ce qu'a déclaré la présidente du syndicat du secteur de la santé. Le Dalai Lama se rendra à Prague en décembre sur invitation de son ami, l'écrivain et ancien président Václav Havel. Le leader spirituel du Tibet vient fréquemment en République tchèque. Sa dernière visite remonte à 2 ans lors d'une conférence sur la démocratie en Asie. Le Dalai Lama arrivera à Prague le 10 décembre, journée des droits de l'homme, et restera 3 jours pendant lesquels il participera à des débats à l'université Charles. Parmi les participants, Václav Havel, bien sûr, l'iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, ou encore le français Stéphane Hessel, auteur du best-seller du moment « Les Indignés ». L'architecte Karel Hubáček est mort mercredi à l'âge de 87 ans. Il a marqué l'histoire de l'architecture de son pays en dessinant l'un des bâtiments le plus connu de toute la République tchèque, en tout cas le bâtiment parmi ceux construits en altitude. L'hôtel arrondi construit sur le mont Ještěd est surplombé par un grand émetteur. On passe maintenant au sport, je vous le disais en titre, du tennis avec Tomáš Berdych qui dispute ce vendredi soir un match très important, un match qui pourrait lui permettre en cas de victoire de se qualifier pour les demi-finales du Masters de Londres. C'est un match contre l'Espagnol David Ferrer et il doit l'emporter pour devancer le Serbe Novak Djokovic qui a perdu son duel face à l'autre Serbe qualifié pour les Masters. Prévision pour ce samedi en ce qui concerne la météo. Un ciel plutôt dégagé, des températures maximales entre 4 et 7 degrés. Voilà pour les infos. Plus d'infos, c'est sur le www.radio.cz.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Alexis Rosenzweig pour son bulletin d'information. Au programme du jour, un sujet sur l'école. Un séminaire franco-tchèque était organisé cette semaine à Prague pour évoquer les nouvelles technologies dans le cadre scolaire. Et puis une grande exposition consacrée à Sainte Agnès, patronne de Bohême, ouvre ses portes ce vendredi. Nous vous en parlerons avant de passer à notre rubrique bi-hebdomadaire. Bonne écoute de ce programme. Connaître le niveau des élèves à différents stades de leur scolarité, établir de meilleurs programmes, adapter l'école aux nouvelles technologies, c'est à cela que servent les politiques d'évaluation nationale de l'enseignement. Déjà bien implantées en France, elles sont expérimentales en République tchèque. C'était le sujet d'un séminaire franco-tchèque organisé cette semaine à l'Institut français de Prague. Jean-Sébastien Létang.
C'est à l'Institut français de Prague que se tenait jeudi un séminaire consacré aux évaluations nationales dans l'enseignement primaire en France. Cette conférence rassemblait des inspecteurs des éducations nationales tchèques et françaises, ainsi que le proviseur du lycée français de Prague, accompagné du directeur des classes de primaire. Les discussions avaient pour but de permettre l'échange entre professionnels des deux pays sur ce sujet. On définit par évaluation les analyses statistiques des résultats des élèves. Ces observations, par tranche de classe ou encore par année, permettent d'observer ce qu'apprennent les élèves, s'ils deviennent meilleurs ou moins bons d'année en année, et ainsi d'améliorer la pédagogie et les programmes. Un tel regard croisé sur ce sujet est susceptible de faire naître un esprit d'émulation entre pays, chose primordiale dans le domaine de l'éducation. Nous nous enrichissons de nos mutuelles différences, disait Paul Valéry. Nous avons rencontré Philippe Claus, inspecteur général de l'éducation nationale française dans l'enseignement primaire. Il nous décrit le fondement d'un tel séminaire.
J'étais invité à présenter deux choses. D'une part, je crois d'abord le panorama de ce que nous faisons en France, hein, des évaluations nationales des élèves, puisque le ministère tchèque de l'éducation nationale est en train lui-même de concevoir des protocoles d'évaluation, donc d'échanger avec lui sur nos expériences de 25 ans par un panorama, et aussi de présenter à nos amis tchèques ce qui est pour nous aujourd'hui une des grandes évolutions, le pilotage du système éducatif par des résultats évalués.
Des situations nationales différentes donc. Cependant, deux intervenants tchèques ont présenté les standards datant du milieu des années 2000 qu'ils souhaitent mettre en place. Un processus d'évaluation mis en marche en République tchèque depuis quelque temps déjà. Processus soutenu par un partenariat franco-tchèque.
Oui, alors le partenariat est installé ici, et j'ai eu le plaisir de le découvrir réellement, entre les services culturels de l'ambassade de France et une équipe de travail tchèque qui travaille véritablement régulièrement ensemble sur la mise en place de ces évaluations. Moi, je rêve qu'on aille encore beaucoup plus loin, bien sûr, et que ça se poursuive au-delà des évaluations elles-mêmes par un travail de coopération sur l'action éducative, la pédagogie. Mais je crois que c'est vraiment un début très prometteur.
Cependant, malgré ce partenariat, les systèmes d'éducation des deux pays restent différents. Cela est notamment dû à une différence dans la centralisation et dans la diversité des modes de répartition des compétences à l'échelle étatique. Philippe Claus.
Alors il y a une très grande différence, il y a une différence d'histoire tout simplement. Le système français reste un système où le rôle du gouvernement central, de la partie centrale reste important. C'est lui qui définit les contenus d'enseignement, les programmes, le socle et les évaluations nationales. Alors que la dernière réforme en République tchèque a été au contraire de donner beaucoup plus la main aux unités d'enseignement, aux territoires, et l'État s'est un peu retiré, et donc par exemple les programmes eux-mêmes ne sont plus définis et de la même façon, d'une manière aussi précise en République tchèque. Et le fait de travailler ensemble nous permet, mais je dis bien travailler ensemble, nous permet de voir à la fois les avantages de notre système, définition de contenu d'enseignement, mais aussi les limites de la chose, difficulté d'adapter ces contenus d'enseignement au terrain. Donc on joue gagnant-gagnant tous les deux. On a tout intérêt à travailler ensemble et de regarder les fruits des expériences, des évolutions des deux systèmes éducatifs.
Des programmes d'évaluation du niveau des élèves encore jeunes donc, voire expérimentaux dans le cas de la République tchèque. Tâtonnements qui permettront peut-être à terme de réellement recalibrer la pédagogie et pourront également créer de véritables échanges européens dans le domaine de l'éducation.
Le 800e anniversaire de la naissance de Sainte Agnès de Bohême a été évoqué en Tchéquie par plusieurs manifestations. Agnès, fille cadette du roi Přemysl Otakar Ier, née probablement en 1211, était une personnalité importante de la vie religieuse, politique et culturelle de son temps, et son influence perdure encore aujourd'hui. Sa canonisation en 1989 a précipité la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie. Ceux qui aimeraient en apprendre plus sur la sainte patronne de la Bohème peuvent se rendre à l'exposition préparée à cette occasion par l'archevêché de Prague et la Galerie nationale et qui vient de s'ouvrir au couvent Sainte-Agnès à Prague. Václav Richter.
L'exposition réunit pour la première fois depuis les années 1930 les objets et les documents liés avec la vie et l'œuvre de la sainte et aussi avec le couvent qu'elle a fondé. Selon le commissaire de l'exposition Vít Vlnas, plusieurs de ces objets sont exposés pour la toute première fois.
Je suis très content qu'à cette occasion, certains objets d'art importants de l'époque Přemyslite tardive reviennent pour la durée de l'exposition dans le couvent où ils ont été abrités jadis. Il s'agit par exemple de la croix du roi Przemysław Otakar II, du trésor de la cathédrale de Ratisbonne, qui était à l'origine destiné à orner le grand mausolée des derniers rois Przemyslid dans le couvent Sainte-Agnès. Il y a également la croix de Zawisz, prêtée par le couvent de Wyszybród, et d'autres objets d'orfèvrerie et d'artisanat d'art, ainsi que des livres ornés d'enluminures de l'époque des derniers rois de la dynastie des Przemyslid.
Les organisateurs de l'exposition ont réussi à réunir quelques 300 objets liés directement ou indirectement au culte de Sainte Agnès. Vid Vilnas précise cependant que l'exposition n'est pas consacrée uniquement à Sainte Agnès, mais aussi à la mémoire d'autres saintes princesses ayant vécu à son époque dans les pays de la couronne de Bohême ou ayant entretenu des rapports avec ces pays.
Il s'agit de Sainte Claire, fondatrice de l'ordre des Clarisses et guide spirituelle dont l'observance a été adoptée par Sainte Agnès. L'exposition évoque aussi la bienheureuse Anne de Bohême, sœur de Sainte Agnès, qui est cependant plus connue en Silésie qu'en Bohême, ainsi que Sainte Edwige, patronne de la Silésie, qui appartient aussi à ce groupe de princesses du XIIIe siècle, fondatrice de nouveaux ordres religieux et de nouveaux couvents.
L'exposition est la dernière manifestation organisée en Tchéquie dans le cadre de l'année consacrée à Sainte Agnès. À cette occasion, une statue de la sainte a été inaugurée au Sénat, chambre haute du Parlement tchèque, et a été aussi organisé un grand concours de dessin pour enfants. Les enfants ont été invités à s'inspirer pour leurs dessins de la vie et du culte de la sainte patronne de Bohême. La dernière étape du concours, y compris la cérémonie de proclamation des vainqueurs, a eu lieu justement dans le couvent Sainte Agnès. Vid Vilnas de rappeler que c'est aussi dans le couvent qu'a eu lieu une autre cérémonie importante.
Un hommage a été rendu à la sainte dans l'église Saint-Sauveur au couvent Sainte Agnès, où a été célébrée une messe par l'archevêque de Prague, Mgr Dominique Duka. Cette messe, qui a ouvert l'année Sainte Agnès, a été le premier événement de ce genre depuis le XVIIIe siècle, où le couvent a été sécularisé.
L'exposition Sainte Agnès de Bohême, princesse religieuse, sera ouverte jusqu'au 25 mars prochain.
On passe tout de suite à la deuxième partie de notre programme. La crise économique et les réformes en cours en République tchèque sont des thèmes fréquemment abordés par la presse nationale. Nous avons retenu quelques réflexions apparues cette semaine à ce sujet et nous avons également constaté que les journaux ont consacré une partie de leur page culturelle au cinéma français, pas seulement à l'occasion du Festival du film français qui se déroule en ce moment dans plusieurs villes du pays. Une rubrique proposée par Alena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Le président de l'OCDE, Angel Rujaja, est venu récemment à Prague pour y présenter une évaluation des perspectives d'évolution de l'économie tchèque. Il a également accordé une interview au quotidien Lidové Noviny, dans laquelle il s'est notamment exprimé sur l'impact de la crise dans la zone euro sur l'économie tchèque. Nous citons.
Votre pays en lui-même n'est pas confronté à des problèmes particuliers. Votre problème, c'est que vous avez une petite économie qui dépend de l'évolution dans la zone euro. Votre croissance dépend donc de votre capacité à exporter vers ces pays. Vous avez aussi des avantages, dont d'abord celui de votre propre monnaie. Le chef du gouvernement, Peter Nečas, a raison quand il dit que l'adoption de l'euro en Tchéquie n'est pas à l'ordre du jour.
Parmi d'autres avantages, le chef de l'OCDE indique le système bancaire peu vulnérable, une monnaie stable, et le fait que, à la différence des Hongrois, des Polonais ou des pays baltes, les Tchèques n'ont pas d'hypothèque en euros ou en francs suisses. Globalement, le pays a plus d'économies que de dettes.
Insistant sur l'importance de la culture bancaire, Angel Gurria signale que de ce point de vue, les banques tchèques sont saines.
C'est d'ailleurs ce que constate à son tour une douzaine d'économistes tchèques interrogés dans un des récents suppléments économiques de ce journal pour répondre aux épargnants tchèques qui craignent pour leurs dépôts dans les banques tchèques et qui représentent au total la somme de près de 1,7 billion de courants tchèques.
Ceux-ci sont en général d'accord sur le fait qu'il n'y a en ce moment aucune raison de paniquer, prétendant que ces dépôts sont tout à fait sûrs. Ceci dit, il recommande à l'épargnant tchèque qui veut avoir des garanties et qui est traditionnellement particulièrement conservateur d'envisager aussi d'autres alternatives et investissements.
Le journal conclut.
Les problèmes financiers de certaines banques en Europe ne constituent pas une grande menace pour les banques en Tchéquie. Ce qui est en revanche dangereux, c'est l'alimentation de la méfiance, tant au sein du secteur bancaire que de la part des épargnants. Le comportement de ces derniers qui pourrait affaiblir les banques est donc très important.
Sur le site économique ihnet.cz, Ivan Filip, économiste et ex-ministre des Finances, se félicite lui aussi de la stabilité du secteur bancaire tchèque. Il considère toutefois que l'actuelle crise de certains États de l'Union européenne et de l'euro donne lieu à de très profondes inquiétudes. De ce fait, écrit-il, il est dans l'intérêt vital de la République tchèque et de sa population de voir cette crise se stabiliser.
Dans l'édition de mardi du quotidien Pravo, le sociologue Jan Keller se penche pour sa part sur les réformes en cours dans le pays. Mise sur pied prétendument en vue de diminuer la dette de l'État, et s'arrête sur les approches foncièrement différentes du chef du gouvernement Peter Nečas et du président de la République Václav Klaus en ce qui concerne le rôle des agences de notation. Il écrit...
Pour le cabinet Nečas, les évaluations positives de ces agences, comme c'était récemment le cas de l'agence Standard Poor's, sont une preuve du bien fondé et de la réussite de ces réformes. Tout en soutenant pleinement ce cabinet, Václav Klaus n'a pourtant de cesse de dénoncer la crédibilité des agences de notation, qualifiant leur rapport de faible, de superficiel et de peu analytique.
Et l'auteur de l'article de remarquer sur un ton ironique que l'on peut en déduire que s'agissant des réformes et de leur évaluation, nos représentants politiques parlent vraiment à l'unisson.
Prague et plusieurs autres villes tchèques accueillent le traditionnel festival du film français qui a été inauguré devant une salle pleine jeudi soir à Prague. La veille, le quotidien Mladá Frontanes a publié un entretien avec le célèbre réalisateur américain d'origine tchèque, Miloš Forman, qui campe dans le film Les Bien-aimés, qui a ouvert le festival, un des principaux rôles masculins, aux côtés de Catherine Deneuve et de Chiara Mastroianni. Il explique comment et pourquoi il a accepté ce rôle.
Lorsque mes amis français m'ont dit que Christophe Honoré était un réalisateur doué et reconnu, et lorsque j'ai appris que j'aurais pour partenaire Catherine Deneuve et que notre première scène, nue, se déroulerait au lit, j'ai tout de suite accepté, sans même avoir lu le scénario.
Son personnage s'appelle Jaromil Passer, le prénom étant celui du réalisateur Jaromil Jireš et le nom celui d'un autre célèbre cinéaste tchèque, Ivan Passer. Ceci est un signe d'admiration et d'hommage du réalisateur français à l'égard de la nouvelle vague du film tchèque des années 1960. Témoin et un des principaux protagonistes de cette fameuse période, Miloš Forman précise qu'il n'avait pourtant pas de conseils à donner concernant ces années, qui sont une des périodes évoquées dans ses films, son histoire s'étendant sur la période de 40 ans. Dans son entretien, il explique.
Christophe Honoré était très bien préparé. Les années 60 sont désormais des années mythiques. Or, personne ne veut par exemple croire qu'à cette époque-là, il y avait aussi, à côté de films magnifiques de la nouvelle vague, des films médiocres, voire des films de très mauvaise qualité. Mais j'avoue que je n'arriverai pas à en citer, ne serait-ce qu'un seul titre. Tandis que les bons films, je peux vous les énumérer presque tous.
Miloš Forman, qui est installé depuis plusieurs décennies aux États-Unis, soufflera l'année prochaine ses 80 bougies. À cette occasion, il a émis pour le journal le vœu de pouvoir survivre à son jour anniversaire tranquillement en famille.
Une des récentes éditions du journal Lidové Noviny consacre toute une page au nouveau rôle de Gérard Depardieu dans une production télévisée consacrée à Grigori Rasputin, mystique et guérisseur russe, confident de la tsarine Alexandre, qui a vécu entre 1869 et 1916. Le journal souligne que l'acteur, qui est certes le comédien français le plus connu et le plus populaire en République tchèque, a pu ainsi réaliser son rêve, le caractérisant comme un admirateur de la littérature et de l'histoire russe.
L'article est accompagné de plusieurs photos en couleur réalisées lors du tournage en Russie, histoire de prouver que l'acteur a su fidèlement imiter le regard ensorceleur de Rasputin. Son auteur remarque en outre que l'acteur s'est félicité du travail sur le film ainsi que de sa collaboration avec les partenaires russes.
Les derniers films avec Gérard Depardieu que le public tchèque a pu voir en salle et qui ont remporté un beau succès sont notamment Potiche et Mammouth.
Fin des émissions en français de Radio Prague. Cette émission a été présentée aujourd'hui par Anna Kubishta. Retrouvez samedi et dimanche vos rubriques habituelles du week-end. Évidemment, tous les sujets que vous pouvez entendre, vous le savez, vous pouvez les retrouver sous forme d'articles, en podcast également sur notre site internet le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent en direct, en streaming, je vous propose tout de suite de continuer cette émission en musique avec une des grandes figures de la chanson tchèque, Jiří Suchý.
Padam, padam, z rozhledničky, padam. Padám do bedničky, v letu světu rukou kynu, možná, že tu bednu minu. Padám, padám z rozhledničky, to je celý. Padam padam pam 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 padam 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 pam pam pararap pam 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 Padám z rozhledničky. Všechno jsem opustil pro tebe, pro nic víc jsem nežil než pro tebe. Co si teď jen počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe. A co si teď jen počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe. Já zpívám blues jen a jen pro tebe. Snad zapomenu příští den už na tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Jestli se mi to povede, tak
žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Někdy jsem zlostí celý bez sebe. Chci, aby hromu hodil do tebe. A 10 minut na to hned, já beru svoji klerbu zpět, já beru svoji klerbu zpátky na sebe. A 10 minut na to hned, já beru svoji klerbu zpět, já beru svoji klerbu zpátky na sebe. Já zpívám blues jen pro tebe, snad zapomenu příští den už na tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Jestli se mi to povede, Tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Jsem hroch, ni moskyt, ani ptakopisk, ni vůl. Jsem člověk, tak aspoň mi to bylo řečeno. Osud mi toho poskyt, že stačilo by půl, a nemohl bych mu přijít na jméno. Já na obtíž jsem býval a věčně smůlu mýval, až pak jednou z nenadání stal se div. Mě začali říkat pane, já věděl jsem, že se to stane, akorát jsem to čekal mnohem dřív. Pak místo smůly sláva mě začala v duši hřát, a kde kdo říkal, že jsem kabrňák. Ale jak se to stává, já začal jsem se bát, že jednou spadnu z hůry na frňák. Zatím však byl jsem slaven, životem neunaven, já s novou chutí do dlaní si pliv. Tak bylo to osudem dané, já věděl jsem, že se to stane, akorát jsem to čekal mnohem dřív. Roky jak známo plynou a připitomnělej čas počne si s námi neúprosně hrát. Já začal zpívat jinou a potom čekám zas, kdy publikum se začne těsně smát. místo smíchu zdá se, že slyším slovo pase, i omlouvám se za to, že jsem živ. Zas smůla mi do duše kane, já věděl jsem, že se to stane, akorát jsem to čekal mnohem dřív. Mi to duše kane, já věděl jsem, že se to stane, akorát jsem to čekal mnohem dřív.